Ésaïe 40, 1 à 11, page 815. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe est sèche, et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix à Jérusalem pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent.
Pour deux RDS, ce soir et le 3 juin prochain, nous serons dans le livre d'Ésaïe. Ce chapitre en deux temps, cette première partie ce soir. Il est question de consolation, vous l'avez entendu. Ce texte commence par consoler. Consoler mon peuple, dit votre Dieu. Mais de quoi le peuple doit-il être consolé? Est-ce que c'est la consolation qui est nécessaire pour quelqu'un qui passe par le deuil? Est-ce que c'est la consolation d'une personne qui a perdu quelque chose de valeur, vit une séparation? La consolation d'une personne qui vit dans l'isolement. Si on se mettait dans la peau des auditeurs d'Ésaïe pour essayer de mieux comprendre ce message de consolation, Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ et il va annoncer au peuple de Juda la menace d'une invasion étrangère. Au chapitre 39, il sera question d'une invasion babylonienne. Et avant ça, le peuple de Juda a vécu dans la crainte d'une autre menace, d'une autre invasion, celle de la Syrie. Et pour une génération comme la nôtre, c'est peut-être difficile d'imaginer ce que ça représente, ce qui va se passer pour Juda. Cette invasion, ce départ en exil, difficile pour nous de se mettre dans la peau de personnes qui vont voir, par exemple, leur pays être envahi, leur capitale être rasée, devoir être emmené en exil, vivre aussi le souvenir de tous ceux qui sont morts dans les combats. La peine qu'ils vont expérimenter, elle a plusieurs dimensions, deuil justement, isolement, déracinement, tristesse, désespoir. Et ce qui rend la peine encore plus difficile à vivre, c'est qu'ils vont réaliser leur culpabilité. S'ils vivent cet exil, s'ils vont vivre cet exil avec Babylone, c'est parce que c'est lié à un péché, à deux offenses communes. La plupart du temps, dans la Bible, on voit qu'une souffrance n'est pas liée à une offense commise. On le voit à plusieurs endroits, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Une souffrance n'est pas liée nécessairement à une offense commise. Mais dans leur cas, c'est bien vrai. Cet exil, il est lié au mal dont ils sont responsables. Moïse l'avait annoncé au début de la nation, et l'histoire va le démontrer. L'exil est la conséquence d'un rejet flagrant de l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu, le temps de Moïse. L'Ésaïe fait partie d'une longue lignée de prophètes qui vont dire au peuple la nécessité de revenir à Dieu, de se dédonner de l'idolâtrie et aussi des injustices qu'ils commettent. L'avertissement sur des décennies et même des siècles. Et qui ne trouve que peu de temps, l'exil est tombé. Si le jugement il est annoncé dans les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, c'est la consolation qui vient. Et ce qu'on va entendre ce soir, c'est une parole qui console, les versets 1 et 2, une parole qui prépare, les versets 3 et 5, une parole qui contraste, les versets 6 et 8, et une parole qui résonne, les versets 9 et 10. Point commun dans ces différentes parties, c'est, dans le plan, c'est justement la parole. Vous allez relever tous les verbes, consoler, crier, dire au cœur, parler au cœur, etc. Même on entend aussi dans la voix qui crie dans le désert, une voix qui dit, c'est un peu le fil rouge, on a besoin d'entendre, Ésaïe a besoin d'entendre un message de consolation comme dans une même façon. Et nous aussi, ce soir, on a certainement besoin d'entendre ce message de consolation. Quel est le défi de ce passage? Le défi, c'est que je ne sais pas très bien dans quel état d'esprit vous êtes venus ce soir. À quel état d'esprit est-ce que nous sommes venus à cette rencontre? Est-ce qu'on est venu avec le cœur remué? Le sentiment d'avoir failli dans un ou plusieurs domaines, d'avoir une relation difficile, inextricable, sentiment de gâchis, le sentiment d'avoir heurté, soit par ses paroles ou par son attitude quelqu'un. Et si c'est dans cet état d'esprit-là que vous êtes venu ce soir, alors ce message, il va vous parler. Il va justement apporter cette consolation. Il est possible aussi que nous sommes venus ce soir avec l'impression que les choses tournent, qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher, qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'on ne voit pas vraiment pourquoi il faudrait demander pardon tout à l'heure. La reconnaissance de notre péché, qu'on avait la peine à identifier cela dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'apport de ce message? Est-ce qu'on va entendre ces paroles en se disant, ben, ça c'est pour les personnes un peu sensibles, ça va faire du bien à un tel qui est tout le temps en train de culpabiliser, ça lui fera du bien, ça. Alors que nous, on se sentira pas forcément concerné. C'est un des défis de ce passage. Mais le début du livre d'Ésaïe peut peut-être nous aider. Dans le chapitre 1 à 5, Ésaïe décrit l'état d'esprit du peuple. Qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, c'est précisément l'absence de culpabilité, l'absence de remise en question, la difficulté de reconnaître le mal en soi, l'hypocrisie aussi de ce peuple. Et c'est peut-être une bonne manière, quelque chose qui peut nous aider, une bonne manière de commencer. De commencer par reconnaître en nous cette difficulté en chacun d'entre nous, à reconnaître le mal, à reconnaître qu'on est capable, mal, et pas seulement capable, qu'on en est responsable. Quant à la structure du livre d'Ésaïe, deux grands appels sont lancés, un au chapitre 6 et ici au chapitre 40. Dans les deux cas, on se trouve en quelque sorte dans la cour de Dieu, où il y a des voix qui résonnent, qui se font entendre, des appels qui sont lancés. Et dans les deux cas, Ésaïe répondra. Au chapitre 6, il répond, et il va à cet appel, et il va annoncer un message de jugement sur Juda. Et ici, c'est un message de consolation. Une parole qui consomme. Parlez au cœur de Jérusalem. Priez-lui de sa période de combat. Et terminez que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Jérusalem a besoin d'entendre cette consolation. Et entendez, parler au cœur dans le sens de convaincre. Elle doit être convaincue de cela. Criez-lui, tout le monde doit savoir. De leurs oreilles, mais aussi à l'intérieur de leur cœur, tous les habitants de Jérusalem doivent savoir. Savoir quoi? Et précisément, leurs péchés sont pardonnés, leur combat est terminé. Enfin, au fait d'être pardonné de ses péchés, Ésaïe 53 nous dira comment c'est possible. Comment ce pardon peut être possible? Bien par la personne du serviteur, un substitut qui prendra sur lui ses péchés. Mais avant de voir Ésaïe 53, on peut déjà penser à l'état d'esprit de Dieu. Imaginez Dieu en train de pardonner. Si on devait se représenter en train de pardonner ce peuple, en train de nous pardonner, comment est-ce qu'on imagine? Avec une certaine réticence. Ok, c'est pardonné. Avec quelqu'un qui fronce les sourcils, il dit qu'il pardonne, mais on sent dans la voix une certaine lassitude. Il fronce les sourcils, il veut les yeux, soupire. Ok, je vous pardonne encore une fois. Au contraire, Ésaïe doit parler d'un total pardon. Il veut convaincre le cœur de chacun que la faute est pardonnée et le couvert qu'on lui a enlevé. C'est un peu comme un parent, imaginez un parent qui va rechercher un enfant qui a été puni parce qu'il a fait du mal à son frère ou à sa soeur dans sa chambre. Et ce parent va retrouver avec tendresse cet enfant. Viens, retourne avec les autres, viens nous rejoindre. C'est fini. C'est pardonné. Ou un ami que vous avez offensé et qui vous dirait avec un sourire, avec une totale franchise, c'est pardonné, mon ami. C'est fini, c'est derrière. Il s'agit ici d'une parole qui console, que Dieu veut annoncer à son peuple. Et là encore, il est possible que ce peu de résonance, parce qu'on vient d'apprendre à avoir à l'esprit des fautes qu'on voudrait voir pardonner. Là, c'est le temps, l'occasion de passer à une parole qui prépare. Il est question des versets 3 et 4, une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu. » Dans les endroits arides, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Mais pas loin du boulevard des Invalides, il arrive que des convois passent par le boulevard des Invalides. Vous vous dites, comment est-ce que c'est ? Eh bien, à mes heures perdues, il m'est arrivé de voir un convoi passer. Alors, est-ce que c'est des ministres, des diplomates, des présidents ? Je ne sais pas. Il y avait plusieurs fois des convois de voitures avec des vitres teintées et des policiers motocyclistes qui vont s'arrêter au niveau du carrefour du Roc et stopper la circulation des deux côtés de la rue Serre pour que les convois puissent passer. L'idée, c'est de dégager tout obstacle de leur carrefour. Et bien, au temps d'Ésaïe déjà, si quelqu'un, un dignitaire, devait venir, il fallait dégager cette route qu'il allait emprunter, enlever tout obstacle. Si c'est vrai à cette époque-là, si c'est vrai aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire quand Dieu lui-même, c'est vrai d'une manière imagée, on nous dit que toute vallée doit être comblée, que toute montagne doit être écrasé. Et là, on réalise que c'est tout qui va changer. La topographie qui va changer. C'est pas simplement une ou deux pierres qui peut déplacer. C'est la topographie qui va changer. Si le langage est symbolique, à quoi est-ce qu'il renvoie? Ainsi, on trouve un écho au chapitre 57 de cela. C'est dans le Nouveau Testament qu'on entend la manière d'expliquer ce qui doit se passer. Vous l'avez peut-être entendu dans les évangiles, quand cette parole d'Ésaïe est citée, elle est attribuée à Jean le baptiseur, qui va annoncer un message. C'est lui, la voix qui crie dans le désert. La venue du Seigneur, eh bien, c'est la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Et comment est-ce que Jean doit préparer la venue du Seigneur? Eh bien, précisément par une invitation à la repentance. Aux collecteurs d'impôts, par exemple. Il exhorte de ne pas exiger plus que ce qui est demandé. Aux soldats, il exhorte de ne pas extorquer, de se contenter de leur solde. chacun dans sa situation est invité à la repentance, à tout obstacle à la venue de Dieu. Je vous pose la question, et je me pose la question, à quoi ressemblerait cette joie de Dieu pour vous, pour moi? Arrête de chercher sur toi-même. Arrête de chercher la sécurité dans ton propre cœur. Arrête de rechercher l'approbation. Arrête d'être préoccupé de ta célébrité sur les réseaux sociaux. Arrête d'être constamment collé à ton portable. Arrête de jalouser un tel ou un tel. Arrête de convoiter. Arrête de manquer d'amour. Dans les petites et dans les grandes choses, il y a certainement des éducations qui nous sont faites. Mais cette voix, elle n'est pas seulement dégagée dans ce sens-là. C'est en même temps une manière de dire que rien ne fera obstacle à la venue de Dieu lui-même. Rien ne fera obstacle. Il est dit au verset 5 que la gloire de Dieu doit être révélée. Rien ne l'empêchera. La gloire de Dieu, on pourrait dire, l'expression de sa personne, son rayonnement. Le livre de l'Exode, par exemple, parle de Dieu. On en parle à la fin, mais on voit ce tabernacle qui reçoit la gloire de Dieu, la présence même de Dieu. Dans les films, dans les comédies musicales, on aime bien voir, quand il s'agit de l'Exode, le temps de la libération, que ce soit le temps de Jésus qui les dix commandements, on va s'attarder sur cette libération, ou encore on va parler de ce don de la loi, les dix commandements, justement, la deuxième partie du livre. Mais est-ce qu'on s'attardera sur cette troisième partie du livre? C'est le 16 long chapitre où il est question de description du tabernacle et de la construction du tabernacle. Mais c'est pourtant l'objectif que Dieu poursuit. Demeurer dans le sanctuaire. Et c'est exactement ce que Jésus veut annoncer ici. Dieu veut demeurer parmi son peuple, sa gloire en demeurant. Un siècle plus tard, quand Jean doit introduire, quand l'évangéliste doit introduire la venue de Jésus, il le dit de cette façon, la parole s'est fait homme. Elle a habité, littéralement, elle a planté sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Vous imaginez, si le PDG de votre entreprise venait voir une condition de travail, voulait savoir comment vous vivez votre travail au quotidien. Vous êtes étudiant, vous directeur de l'université. Vous travaillez pour avec enseignant, c'est le ministre de l'Éducation qui veut voir votre condition de travail. Là, on serait assez surpris par la démarche, mais certainement aussi, ça serait un moment marquant dans ce parcours d'avoir eu une telle visite. Ici, c'est le Dieu à l'origine de l'existence qui vient dans notre condition. Et pas seulement pour savoir ce que nous vivons, c'est aussi pour révéler sa gloire, sa personne. Lui a nécessité d'être prêt à rencontrer. Et si là encore on a de la peine à s'assurer, à reconnaître nos péchés, il y a quelque chose qui doit peut-être nous encourager chez Jean. Quand il est question de l'heure de la gloire qui doit être manifestée, la gloire de Dieu en son Fils, l'heure de gloire, c'est ce moment de la foi que Jésus a justement mouru pour nous. Vous savez, lui, il dévoile le péché, mais il permet aussi de pardonner le péché. Vous savez, même de nous encourager à reconnaître ses péchés pour accueillir. On passe ensuite à une parole qui contraste, À la fin du mois de mars, il y avait un entretien sur France Inter avec André Constantin, le philosophe, qui vient d'écrire un livre, L'inconsolable et autres impromptus. Et il résume dans cet entretien un peu son livre. Selon lui, il y a des inconsolables. Il y a de l'inconsolable. Et plutôt que de vivre avec des attentes illusoires, des consolations illusoires, il vaut mieux accepter nos vies telles qu'elles sont. Nous accepter telles qu'elles sont. Et dans un sens, il a raison. Donc une consolation, elle est du sens. Il faut qu'elle soit basée sur la réalité. Il faut qu'elle soit fiable. Qui a envie d'être consolé par des paroles qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun poids? Imaginez une mère ou un père qui dirait à son enfant, « Tu souffriras jamais. Je serai toujours là pour te protéger. » Ou alors quelqu'un qui dirait, « T'inquiète pas, tout ira bien, je serai toujours là à tes côtés. » Un ami ou une autre, « Je serai toujours là pour te protéger. » C'est pas des vraies paroles de consolation. Une consolation dans le sens que si elle est fiable. Alors qu'est-ce qu'on va faire de Ésaïe 40? Est-ce qu'il faut voir cette consolation comme une attente illusoire? Est-ce qu'on essaie de se trouver une consolation utopique? Tout ce que dit Ésaïe ici, verset 6, toute créature est comme l'herbe. Toute sa beauté comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur faible. Une attente illusoire, elle commence avec une grande lucidité. Vous et moi, la plupart du temps, on se réveille le matin en estimant que c'est une nouvelle journée, on croise toute une foule de gens dans telle ou telle gare, et on estime qu'on va refaire la même chose le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. On vit tous les jours en estimant que la mort, elle est loin de nous. Et puis, il y a eu une semaine comme celle-ci. On entend le décès de deux personnes qui nous rappellent la fragilité, la brièveté de l'existence. Pensez à la petite Corinne, 5 ans et demi, la petite fille de Francis et Martine Cook qui viennent, Francis dans son fauteuil de l'homme. 5 ans et demi, le décès de Laurence Ténard, qui venait le dimanche matin et qui laisse derrière elle un mari et deux fils. Ésaïe, il est tout à fait lucide quand il parle de la brièveté, de la fragilité de l'existence. Notre vie est comme de l'herbe qui sèche et qui s'en va. Mais il n'en reste pas là. Et il affirme par contraste que la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Alors, est-ce que cette parole que nous méditons semaine après semaine ici, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Ou est-ce que c'est là encore une attente qui nous aura? Est-ce qu'il s'agit d'une croyance archaïque qu'on essaie de faire perdurer alors qu'elle est illusoire? Luc Ésaïe est une bonne illustration de la manière dont on voit cette parole. Naturellement, l'être humain ne la considère pas du tout. Au début et à la fin de cette première partie du livre d'Ésaïe, on trouve deux rois, son père et son fils, Akaz et Ézéchias, qui se trouvent face à cette parole de Dieu. Alors qu'Akaz est menacé par une coalition israélo-syrienne, il entend la parole de Dieu par l'intermédiaire d'Ésaïe. Est-ce qu'il va croire? Est-ce qu'il va avoir confiance en cette parole? Non. Il va avoir précisément une première confiance. Quelque chose qui n'aura pas de sens. Il n'aura pas ce qu'on dit. Akaz a beau vivre au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas plus naturel pour lui d'avoir confiance en la parole de Dieu que pour nous, aujourd'hui. Pour faire des actes beaucoup plus tangibles, beaucoup plus concrets. Une alliance avec la Syrie. À la fin de la première partie de ce livre d'Ésaïe, on retrouve son fils, Ézéchias, qui lui aussi se retrouve devant une pression forte. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est la Syrie, cette fois-ci, qui fait pression. Et là, la situation, elle est beaucoup plus critique. L'invasion du pays a déjà eu lieu. Jérusalem est assiégée. Et là, ce n'est pas une petite alliance, c'est la superpuissance du moment. Les États lui aussi est tenté par des solutions concrètes, se tourner vers un allié, l'Égypte, payer un tribut pour échapper à la Syrie. Et finalement, il fait confiance à cette parole de Dieu. Et la ville va échapper aussi. Est-ce qu'on préfère, nous aussi, se tourner vers des appuis beaucoup plus concrets, beaucoup plus tangibles? Parce que dans nos détresses, on est beaucoup plus tenté par l'appui de personnes humaines ou de ressources intérieures ou de ressources financières ou d'autres. Et d'avoir confiance, c'est pareil. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de notre Dieu subsiste en nous. Viens contre ainsi, Seigneur, une parole qui va traverser les âges, dont beaucoup ont fait l'expérience de la fiabilité, de la fragilité de nos existences. 9 siècles plus tard, l'apôtre Pierre, il reprendra cette citation des hommes. Écoutez comment il l'a fait. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, dans le cas, toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste pour nous. Cette parole est justement celle qui nous a été annoncée par Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il fait le constat que l'amour entre frères et sœurs, un amour engagé et pur, il est difficile. Et quel est son réconfort? Ben, c'est que cette parole qui a été à l'origine de la nouvelle naissance des frères, c'est cette parole qui va transformer cette parole en faire des personnes qui nous parlent. En l'espace de 24 heures, j'ai eu deux échos de personnes ici qui ont souffert de ne pas avoir été accueillies, aimées, comme ils l'auraient souhaité, en tout cas, attristées par un manque d'accueil. Si on est conscient de nos limites et si on est conscient de qui on est, on aurait toutes les raisons ici à la DS d'être abattu, découragé, de baisser les bras. Mais ce qui a encouragé Pierre, c'est de nous encourager aussi. Cette parole qui est à l'origine de notre nouvelle naissance, elle est allée nous transformer d'intérieur. Pour faire de nous les gens aimants et engagés. C'est vrai qu'il y a des limites pour aimer, mais cette parole est aussi fiable quand il s'agit de pardon. Je suis certain de vous pardonner. Elle est fiable, cette parole. Et on termine avec une parole qui résonne. Dans cette dernière partie, il y a comme une explosion de joie. Et si vous deviez vous souvenir de la plus belle nouvelle que vous avez dû annoncer, c'est quoi cette nouvelle? La nouvelle d'une naissance, la nouvelle d'un mariage, la nouvelle d'un examen passé, d'un travail obtenu, d'un prix reçu, d'un logement trouvé. Et ici, la nouvelle, elle dépasse tout ça. Pourquoi? On est déjà dans le fait que vous êtes déjà allé en haut d'une montagne pour crier. Alors, telle ou telle nouvelle. Et c'est ce qu'on doit faire ici. Monter sur une autre montagne pour crier pour ce que tout le monde entend. Qu'est-ce qui est si réjouissant? Bien, on entend ces paroles. Voici votre Dieu, le Seigneur, l'éternel. Vous allez dire, on nous a déjà dit ça au verset 3 et 5. On nous a déjà dit que Dieu allait venir dans Jésus-Christ. C'est comme si on devait constamment revivre l'excitation et la beauté de cette nouvelle. Il va même prendre le temps par la suite, on va en parler dans le chapitre suivant et même dans la fin de ce chapitre 40. Mais sachant ici que le roi vient. Il y a deux aspects de cette royauté qui sont mis en évidence. Je suggère de voir dans le verset 10 et 11, par l'expression du bras, deux facettes de la présence de Dieu qui doivent nous apporter notre confiance, qui doivent nous consoler. Verset 10, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Verset 11, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Et
bien pour elle, c'est bien. La première, on voit l'aspect de sa souveraineté et de souverain sur tous les moments de l'histoire. Et le temps que j'y garde, rien n'échappe à son pouvoir. Et son bras, c'est aussi ce bras qui prend les plus faibles, les agneaux, pour les prendre plus proche de sa poitrine. Et on a autant besoin, de chacun d'entre nous, dans les moments qu'on vit, qu'on a vu, d'avoir affaire à un Dieu qui à la fois est souverain dans tous les domaines de notre vie et qui est bienveillant, sensible. Pas seulement souverain et sans considération de personne, pas seulement bienveillant, mais humain et humain.